voir aujourd'hui la question de l'épouse et de la mère chrétienne. L'épouse et la mère chrétienne, ce n'est sans doute pas l'état de toutes les femmes, mais c'est la vocation, pour ainsi dire, ordinaire de la femme, même si dans certains cas, elle ne l'est pas, comme par exemple lorsqu'elle est religieuse. Et c'est donc parce que c'est la vocation ordinaire de la femme que nous abordons ce sujet. Donc si j'ai le temps, je dirai quelques mots des personnes qui ne sont pas dans cet état. Donc vous aurez aussi, pour la messe de 11h, une prédication sur la vie religieuse. Donc l'épouse et la mère, ce sont deux considérations qui rentrent dans le cadre du mariage, donc dans le cadre aussi de la famille. Vous voyez bien que ce sont des sujets qui nécessiteraient des prédications, comme pour beaucoup de sujets, de longues prédications, et nombreuses aussi. Alors nous essaierons d'aller à l'essentiel, de regarder quelques considérations qui puissent être fructueuses pour vos âmes. Saint Paul, lorsqu'il considère le mariage chrétien, le regarde tout de suite de très haut, puisqu'il compare l'union entre l'homme et la femme avec l'union de l'Église à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dire que le modèle de l'épouse est dans l'Église. Et le modèle de ses épousailles est dans les épousailles de l'Église avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le mariage, comme vous le savez, déjà dans l'ordre naturel, est à une certaine fin. La première de ces fins étant la procréation et l'éducation des enfants. Dans l'ordre surnaturel, le mariage a été élevé à la dignité de sacrement, donc il reste le mariage institution naturelle, qui est un contrat sur le plan naturel, mais ce contrat est doublé, élevé à la dignité de sacrement. Donc c'est ce qui lui donne un caractère surnaturel, et en particulier qui assure les époux et la mère de certaines grâces. Cette vérité est fondamentale. Cette vérité est fondamentale parce que c'est souvent faute de la savoir que l'on ne s'appuie pas suffisamment sur les grâces sur lesquelles on pourrait s'appuyer légitimement. Tout sacrement assure des grâces propres à ce sacrement qui sont liées aux fonctions propres signifié par ce sacrement. Donc, par exemple, pour le mariage, eh bien, le fait de recevoir le sacrement de mariage assure des grâces propres liées à ce sacrement. C'est en vertu du sacrement que les époux se donnent, puisqu'ils sont les ministres du sacrement de mariage, c'est en vertu du sacrement que les époux se donnent qu'ils ont un droit strict à recevoir de Dieu des grâces sacramentelles, des grâces de mariage pour remplir les fonctions qu'ils ont à remplir. Donc, fonctions qui sont toujours les rôles et les devoirs d'époux et d'épouse, et qui sont le plus souvent des devoirs de père et de mère, sauf évidemment lorsque la Providence permet qu'il n'ait pas d'enfant. Dans ce cas-là, ils n'ont donc des grâces que pour être époux. Donc vous voyez que ces grâces sont données par Dieu pour tous les moments de la vie de la famille, pour tous les moments. De même que pour le baptisé, toutes les actions dans l'ordre chrétien et surnaturel bénéficient de grâces propres liées au sacrement de baptême, ce qu'on appelle les grâces baptismales, et de la même façon, tout ce qui touche à la vie de la famille et des époux, bénéficie de grâces propres au sacrement. Donc pour absolument tout, que ce soit la prière en famille, ou que ce soit toutes les tâches de l'épouse et de la mère, tous ses devoirs, pour tout, elle reçoit des grâces. Absolument tout. On y reviendra. C'est montrer que nous sommes vraiment dans un ordre tout à fait surnaturel et très grand. Comme le dit saint Paul, ce sacrement est grand, comme tout sacrement, mais il est particulièrement grand. Il est grand parce que les époux donc signifient encore une fois l'union de l'Église avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est grand aussi parce qu'ils sont appelés à collaborer à l'œuvre de Dieu, œuvre de création puisqu'ils engendrent la vie. Hein. Certes, ils ne collaborent pas strictement parlé à l'œuvre des créations en elle-même. Les époux ne créent pas l'enfant, mais ils lui donnent sa matière. Et c'est sur cette matière, sur ce corps, que Dieu infuse une âme. Et donc, il collabore d'une certaine façon et de façon très étroite à l'œuvre du Créateur. Et il collabore également à l'œuvre de Dieu sanctificateur, puisqu'ils ont un rôle de sanctification de leurs enfants. Il doit veiller à son éducation non seulement naturelle et surnaturelle. Vous voyez, déjà, que dire ça, c'est montrer la grandeur des époux et la grandeur de l'épouse et de la mère, surtout que, comme vous le savez, la mère a la fonction principale dans l'éducation. Non pas que l'éducation, elle en soit la principale responsable devant Dieu, parce que si l'époux est le chef de la famille, eh bien, il est par conséquent le principal responsable de l'éducation de ses enfants, mais c'est elle qui, concrètement, va faire cette éducation de façon principale le plus souvent, parce qu'elle est normalement, ordinairement, à la maison, la plus proche des enfants. Donc, c'est dire que son rôle est très grand. Quels sont les devoirs communs aux deux époux? Nous allons voir d'abord les époux chrétiens, l'épouse chrétienne, et ensuite la mère chrétienne. Alors, d'abord, nous commençons par l'épouse chrétienne, et en particulier les devoirs de l'épouse chrétienne. Le premier devoir de l'épouse chrétienne, c'est la fidélité, qu'il faut comprendre d'une façon très large. Bien sûr, il y a une base stricte, qui est la fidélité corporelle, il faut comprendre cela d'une façon très large, comme nous invite Pie XII dans ses discours aux jeunes époux. La fidélité, c'est l'un des trois biens du mariage, le bonum fidei, la fidélité. Quand deux personnes s'unissent en mariage, elles s'engagent à se donner l'un à l'autre pour toujours et de façon exclusive. C'est-à-dire que on se livre l'objet du mariage, c'est de livrer à l'autre un droit exclusif sur son propre corps en vue des actes propres à la génération. C'est un droit exclusif. Ça veut dire qu'en fait, les époux ne s'appartiennent plus. Le corps d'un époux appartient à son épouse, le corps d'une épouse appartient à son époux. Donc c'est le premier devoir, le devoir de la fidélité, en premier lieu corporelle. Il n'est pas besoin de dessiner la nécessité de ce devoir, de la décrire, vous comprenez bien qu'elle est capitale. D'abord parce qu'on s'y est engagé, et puis parce que c'est la volonté de Dieu, et aussi parce que il faut bien voir que lorsque la fidélité a été rompue, ce qui est déjà un très très grand mal en lui-même, ce qui peut arriver, il y a toujours la faiblesse humaine, bien sûr, lorsque la fidélité a été rompue, les relations entre les époux sont plus les mêmes. Alors bien sûr, il y a le pardon chrétien, il faudra pardonner, on va essayer de reconstruire les choses, mais il n'empêche que, naturellement, l'infidélité engendre chez l'autre le soupçon, la méfiance, le reproche, etc., toutes choses qui sont nuisibles à l'union des esprits. La fidélité des corps qui est très importante. Fidélité, bon, sur laquelle je n'ai pas besoin de beaucoup insister, mais bon, quand même, disons quelques petites choses. Fidélité qui veut dire aucune union illégitime durable, mais même temporaire. Fidélité qui doit durer toute la vie jusqu'à la mort du conjoint et qui parfois sera difficile. Non seulement en raison des occasions qui peuvent venir du monde aujourd'hui, mais pour des raisons intrinsèques au mariage. Bon, en passant à propos des occasions qui viennent du monde, il y a un fléau aujourd'hui, c'est le travail des femmes. C'est un fléau, vous le savez bien. Alors parfois, le travail de la femme est une nécessité, soit qu'elle soit célibataire, il faut bien gagner sa vie, soit qu'elle soit mariée, et que les revenus du mari ne suffisent pas à assurer la vie quotidienne, la vie de la famille, etc. Bon. Il faut voir si vraiment, c'est nécessaire. Parfois, il y a des abus. Mais parfois, effectivement, c'est nécessaire et donc l'épouse doit travailler. Eh bien, c'est très mauvais pour... Ce sont des occasions supplémentaires qui menacent les ménages. Une femme qui vit, qui travaille régulièrement au contact d'autres hommes dans le travail, eh bien, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce sont des occasions. Ça ne veut pas dire que nécessairement les choses vont mal se passer, etc. C'est un truisme. Mais il reste que ce n'est pas bon. Que de fois, les mariages qui craquent, les infidélités qui ont lieu, viennent de rencontres dans le cadre professionnel. Donc la fidélité qui a ces dangers qui viennent de l'extérieur et puis qui est parfois difficile en raison de raisons extérieures et puis aussi en raison de circonstances intérieures au mariage. Il y a par exemple les temps de continence ou bien l'âge. Dans toutes ces circonstances, l'épouse, comme l'époux, doit aider l'autre, doit être fidèle elle-même et doit aider l'autre à la fidélité. Alors en passant, j'en ai déjà dit un petit mot, attention aux amitiés. Saint François de Sales, dans un petit livre, il y a un petit livre qui a été fait par Henri Bordeaux sur le mariage selon Saint François de Sales, les éditions Flammarion. C'est un vieux livre qui n'a pas été réédité, je crois. Et Henri Bordeaux remarque que Saint François de Sales explique qu'il faut faire attention aux amitiés entre l'homme et la femme, en dehors du mariage. Il ne s'agit pas seulement d'une fidélité corporelle, ce n'est pas seulement celle-là qui est demandée aux époux et à l'épouse, mais c'est aussi une fidélité du cœur. Et donc, une exclusivité d'une certaine amitié du cœur. L'amitié entre l'homme et la femme, par nature, et contrairement à des idées reçues, l'amitié entre l'homme et la femme, par nature, appelle autre chose que l'amitié. Parce que le bon Dieu a fait l'homme et la femme ainsi. Alors on dira qu'effectivement, dans certains cas, il y a des amitiés qui restent et qui ne sont que des amitiés. Ce sont des exceptions qui confirment la règle. Ce sont des exceptions et ces exceptions ne sont pas si fréquentes. Il y a toujours le danger, enfin il y a souvent, on va dire, le danger d'autre chose que l'amitié, d'un sentiment plus fort, et bien du sentiment ensuite, on en arrive à tout un autre train qu'on connaît bien. Mais déjà, quand bien même il n'y aurait pas ce train, du seul fait de l'infidélité du cœur, il y a un certain mensonge qui a été fait au mari ou à la femme. Donc attention à cette fidélité des corps, à cette fidélité du cœur. Sur cette fidélité, Pie XII a des considérations très belles. Il y a particulièrement le recueil des enseignements pontificaux, un volume qui s'intitule « Le foyer chrétien », c'est aux éditions d'Esclée. Et là, vous avez de nombreux enseignements de Pie XII aux époux. Vous savez qu'il y a aussi un livre sur Pie XII et le mariage chrétien qui est en vente ici, d'ailleurs, dans le couloir. Il y a un exemplaire un petit peu au fond du couloir sur ce que dit Pie XII aux époux. Et c'est vrai qu'il a des textes très intéressants et beaux. Alors, en particulier la fidélité, voilà ce que dit Pie XII. Le mieux, c'est de le citer parce qu'on ne peut pas dire mieux que lui. Cette fidélité, donc, que Pie XII va regarder d'abord sur le plan corporel, c'est un discours aux jeunes époux le 21 octobre 1942, une allocution. Et donc, il va considérer d'abord la fidélité du corps et ensuite il va parler de la fidélité des esprits. Dans les premières rencontres, dit-il, au temps des fiançailles, souvent tout était enchantement, l'un accordé à l'autre avec non moins de sincérité que d'illusions ingénues, un tribut d'admiration dont ceux qui étaient témoins souriaient avec une complaisante indulgence. Ne faites pas trop attention à ces petites querelles qui, selon le poète latin, sont plutôt le signe de l'amour. C'est ici Ovid. C'était à l'époque la pleine et entière communauté des idées et des sentiments dans l'ordre matériel et spirituel, naturel et surnaturel, l'harmonie parfaite des caractères. L'expansion de la joie et de l'amour donnait à leur colloque une franchise, une vivacité, un brio qui faisait étinceler l'esprit, briller agréablement le trésor des connaissances qu'ils pouvaient posséder, etc. Cette saison passe. Les imperfections ne tardent pas à se révéler, les différences des caractères à se faire sensibles, à s'accroître. Les feux d'artifice sont nés éteints, l'amour aveugle ouvre les yeux, éprouve une désillusion. Alors pour l'amour véritable et fidèle, c'est le temps de l'épreuve qui commence, c'est le temps même de son charme. Les yeux désormais ouverts, il s'aperçoit bien de chacune de ses imperfections, mais il les prend avec une affectueuse patience, conscient qu'il est de ses propres défauts. Plus clairvoyant encore, il s'efforce de découvrir et d'apprécier sous la rude écorce les qualités de jugement, de bon sens, de solide piété, riche trésor caché dans l'ombre, mais de bon aloi. Aux expressions erronées ou inopportunes, il sait chercher une interprétation bienveillante et favorable. Le voici prompt à découvrir ce qui met d'accord et ce qui unit, et non ce qui divise. Alors ça, cette description, elle est un lieu commun. Pour ceux qui vivent dans le mariage, ils savent très bien ce passage, tout le monde le sait, ce passage des premiers mois, des premières années du mariage, aux années suivantes dans lesquelles, eh bien, il y a un peu moins la passion, un peu moins l'amour sensible et un peu plus la connaissance des limites de l'autre et puis les frottements de caractère, les frottements de divergence d'esprit, etc. Donc on sait très bien cela. Alors ce que nous dit Pidouze, c'est que c'est le moment du véritable amour. C'est le moment d'une purification de l'amour. Alors pour ça, juste un petit rappel, parce que il semble que ça soit nécessaire. Vous savez qu'il y a différentes sortes d'amour. Il y a quatre sortes d'amour. C'est très important de le savoir, surtout pour les épouses qui parfois ont plus de difficultés que les maris à le savoir, à le comprendre. Le premier amour, c'est l'amour physique, l'amour des corps. C'est un amour qui est bon, mais qui est un amour inférieur. Bien, c'est l'élan qui se manifeste par le désir. Bien. Ensuite, le deuxième amour est un amour sensible, un amour de sentiment, de passion. C'est un amour qui est donc qui n'est pas corporel, qui est dans l'âme. Mais, dit Aristote, c'est un amour qui est dans l'âme en tant qu'elle anime le corps pour la vie animale. C'est ce qu'il appelle une passion psychologique. Et c'est un amour que l'on trouve chez les animaux. Évidemment, chez l'homme, il a une couleur différente de celle qu'il a chez les animaux. Mais les animaux ont la vie animale. Vous savez très bien que chez les animaux, il y a un amour de sentiment. Le chien a clairement un amour de sentiment pour son maître et sa maîtresse, qui se manifeste dans ses yeux, qui sont un peu romantiques. Et donc, il y a un amour chez les animaux, un véritable amour de sentiment. Évidemment, chez l'homme, ce sentiment est contrôlé par la raison. Mais c'est par nature, c'est le même amour. Voyez. Ensuite, il y a un troisième amour qui est un amour de l'âme, spirituel, mais naturel. C'est une volonté, il se situe dans la volonté, c'est une union de volonté. C'est celui qu'on trouve chez, par exemple, des époux qui n'ont pas le sacrement de mariage, qui sont unis par un mariage naturel, et qui, même en plus du sentiment, le deuxième amour, ont un amour naturel l'un vers l'autre. Ils sont aussi passés par ce passage où on découvre davantage l'autre, où il faut maintenant fortifier l'amour, le rendre moins égoïste, intéressé, et beaucoup plus vrai, fait de don à l'autre, fait d'appréciation de l'autre, et donc ça s'agit dans la volonté, c'est un effort de la volonté, c'est vraiment vouloir le bien de l'autre, eh bien tout ça, les époux, même païens, peuvent l'avoir. C'est un amour naturel, spirituel, dans la volonté. Et au-dessus, il y a un amour encore spirituel, mais cette fois-ci de charité, le quatrième amour, qui est le propre de l'amour chrétien. Et en fait, vous voyez que tous ces amours sont bons, mais qu'il y en a qui sont supérieurs. Et je vous les ai présentés dans l'ordre de supériorité. Et en fait, les inférieurs sont au service des supérieurs. Rien que dire ça, ça peut nourrir toute une méditation. L'amour physique qui est bon, qui est voulu par Dieu, d'abord en vue de la génération, et d'abord non pas en vue de la satisfaction des époux, même si celle-ci existe, l'amour physique est au service de l'amour de sentiment, qui lui-même est au service de l'amour naturel, qui lui-même est au service de l'amour surnaturel. Et donc, si un jour vient à disparaître l'un des amours inférieurs, l'important c'est qu'existe l'amour supérieur. Et précisément, lorsqu'il y a ce passage dont je vous parlais, c'est là où vont grandir les amours supérieurs et parfois diminuer les amours inférieurs. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Il y a des époux qui, pour tout un tas de raisons, se trouvent avoir toujours, par exemple, autant de sympathie l'un pour l'autre, sympathie naturelle, qu'au début. Ils s'entendent toujours comme larron en foire. À ne pas pouvoir se passer l'un de l'autre, etc. Ils sont toujours sympathiques l'un à l'autre, etc. C'est rare que ça se fasse sans effort. Hein. Mais ça peut arriver qu'effectivement, il y ait toujours cet amour de passion. On voit des époux qui sont toujours passionnés l'un pour l'autre au bout de 40 ans de mariage. Mais il arrive, et c'est le plus souvent, qu'effectivement, il y a un peu moins de sentiments. Et c'est à ce moment-là que l'amour de volonté, et surtout l'amour de charité, va venir aider. Et l'épouse a un grand rôle là-dedans, hein, un grand rôle d'abnégation. Un grand rôle d'abnégation. Pie XII parle aussi du don des cœurs. Toujours dans les mêmes allocutions. Bon, je ne peux pas tout lire parce que ce serait trop long. Mais il rappelle qu'il y a aussi une fidélité du cœur, une fidélité qui vient de l'effort. Donc cette fidélité qui est le premier devoir des époux et qui est capitale, qui va se manifester dans toute la vie, c'est une exclusivité de l'amour, c'est une fidélité jusqu'au bout et qui va devoir passer par certaines actions et par certains sacrifices. Il faudra sacrifier par exemple les défauts de caractère, les heurts, les colères. Bien sûr, il y a certaines colères, certaines difficultés qui ne sont pas significatives. Mais le moins il y en a, le mieux le couple se porte. Et donc ça nécessite un sacrifice, un renoncement aux disputes, savoir faire perdre ses droits pour garder la paix. Les disputes engendrent facilement des méfiances, des ressentiments. Alors attention aux disputes, même multipliées. Surtout multiplier, pardon. La fidélité va se nourrir de l'entraide mutuelle. Il est très important d'avoir ce souci de l'entraide mutuelle. Donc pour l'épouse, il y a un grand devoir d'entraide du mari, et pour le mari vis-à-vis de l'épouse, mais ici on parle surtout de l'épouse, un grand souci d'entraide. Ça va devoir d'abord passer par son devoir d'État. Elle est celle qui règne sur l'intérieur. La première mission de l'épouse, c'est de régner sur l'intérieur, sur la maison. Elle est le cœur du foyer, comme dit Pie XII, le soleil est la reine du foyer. Et donc ça va être déjà la première entraide de l'épouse à son mari, que son mari épouse, quand il rentre chez lui, eh bien il trouve un certain ordre dans la famille. Un ordre bien compris, mais un ordre quand même. Quelque chose qui le repose, quelque chose qui lui fasse plaisir. Donc ça c'est une entraide pour l'épouse. Et puis également une entraide morale, spirituelle, par tous les devoirs moraux et spirituels des époux. Le soutien, l'écoute, c'est très très important. La joie. c'est pas toujours facile. L'époux a souvent des soucis, l'épouse a des soucis, et eh bien, il y a une abnégation quand on rentre, quand l'époux rentre du travail, il y a une abnégation du côté de l'épouse et du côté de l'époux qui sont nécessaires pour que se fasse la véritable concorde. L'épouse doit savoir parfois moins écouter ses envies, qu'il faudrait qu'elle parle, qu'elle raconte toute sa journée à son époux, les différentes choses qui sont arrivées dans la famille, les soucis, les ceci, les cela, le courrier, bref, et puis être plus à l'écoute de son époux. Et l'époux, de même, doit faire bon ce qui est nécessaire. Il est important que les âmes soient proches. Parfois, on est un petit peu surpris, on peut être surpris de l'extérieur, au moins la première fois, quand on voit tant de d'époux qui sont finalement un peu trop secrets l'un à l'autre, vous voyez, pas suffisamment ouverts. Alors ça vient souvent beaucoup plus du mari que de la femme, le plus souvent. Alors pour la femme, c'est parfois une croix. Alors c'est à elle de savoir tout doucement ouvrir le cœur de son époux avec adresse, en priant le bon Dieu pour que ça se fasse, afin que les âmes soient proches, qu'il n'y ait pas trop de secrets. Il doit y en avoir, bien sûr, mais il ne doit pas trop de secrets, qu'ils aient le plus possible de choses en commun. Ça fait partie de l'entraide et donc de la fidélité. Et ceci sera rendu beaucoup plus facile, évidemment, si le chrétien est, si les deux époux sont catholiques et traditionnalistes. La fidélité, l'entraide, la bonne entente nécessitent beaucoup d'abnégation, en particulier du jugement propre et de la volonté propre. Il faut savoir céder sur son propre jugement. Évidemment, c'est beaucoup plus nécessaire pour l'épouse qui est appelée, s'il y a conflit, à laisser à l'époux le dernier mot. Cela lui est plus facile aussi qu'à l'époux, parce que l'époux a des défauts qui lui rendent cette chose plus difficile. Et donc, il faut savoir céder. Céder en vérité. Céder en vérité, ça veut dire ne pas céder apparemment pour revenir ensuite, une heure après, entre la poire et le fromage, sur la même question pour obtenir ce qu'on a voulu obtenir. Céder en vérité et en netteté de façon définitive. Supporter les défauts. C'est sans aucun doute, vous voyez, je pense que beaucoup d'entre vous ont une grande expérience de ça. C'est sans aucun doute souvent du côté de l'épouse qu'il y a plus de sacrifices à faire pour supporter les défauts du mari. Alors, on pourra dire, mais ça veut dire que les maris sont plus souvent plus défectueux que les épouses. Sans aller jusque-là, disons que c'est ils ont en tout cas des défauts dans la vie commune qui sont plus facilement difficiles, ça c'est vrai. En particulier, on parle souvent de l'égoïsme des hommes, qui se manifeste par un temps bourru, par ceci, par cela. Alors là, vous voyez, l'épouse, il ne faut pas s'étonner pour l'épouse d'être appelée à une grande abnégation. Les épouses chrétiennes, on voit tant d'épouses chrétiennes qui sont arrivées à un haut degré de sainteté, c'est pas pour rien. Parce qu'il a fallu qu'elles avalent des couleuvres, quoi, tout simplement. Qu'elles mangent de la vache enragée. Et la vache et les couleuvres, ça n'a jamais bien nourri les hommes. Bon. Et donc, alors attention, bien sûr, il ne s'agit pas de se considérer comme étant arrivé à la 20e demeure, d'ailleurs il n'y en a pas 20, mais 20e demeure du château intérieur, et que, ma grande sanctification, c'est supporter mon époux, qui lui est bourré de défauts, etc. Ce n'est pas ça, évidemment, mais bien compris. Mais il reste que, l'épouse doit savoir que, le bon Dieu demande plus d'elle, souvent sous le rapport du silence, de l'acceptation et du support avec résignation de l'esprit de croix, en sa ressemblance avec l'épouse de Jésus-Christ, l'Église, qui elle aussi, sur terre, est militante et un quelque peu souffrante. Deuxième devoir aux époux, de l'épouse, c'est la fécondité. Et ça nous fait passer insensiblement à la maternité. Bon, je passe rapidement sur les épouses qui n'ont pas d'enfants pour tout un tas de raisons. Donc c'est le culte de la providence divine, sur lequel je reviendrai tout à l'heure rapidement, qui va les aider, sans aucun doute, dans cette voie. Et donc nous considérons l'épouse qui a des enfants. Alors, de la même façon que la sanctification de l'épouse passe par le fait de remplir parfaitement ses devoirs d'épouse, elle passe par le devoir de remplir parfaitement ses devoirs de mère. Je n'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais l'épouse doit veiller à la sanctification de son mari, à sa propre sanctification, et c'est en étant une bonne épouse qu'elle se sanctifie et qu'elle sanctifie son mari. C'est très important, vous voyez, de bien voir. C'est quand même, bon, parlons-en un petit peu, c'est quand même bien important de voir le sacrement de mariage en vue de la sanctification. L'épouse, du fait qu'elle est épouse et du fait qu'elle est mère, la sanctification ne lui est pas rendue plus difficile. C'est précisément le fait d'être épouse et le fait d'être mère qui va être pour elle la condition de sa sanctification. Et ça va être le moyen de sa sanctification. Sans doute, ça n'est pas toujours facile. Mais c'est là la voie. Et cette voie passe en particulier par la maternité. La maternité, sur ce chapitre, vous pouvez consulter le livre de l'abbé André sur la mère, qui a des considérations intéressantes. La maternité qu'il regarde beaucoup comme liée au sacrifice. Et il considère notre Seigneur Jésus-Christ engendrant avec l'Église sur le calvaire des enfants spirituels. Le premier enfant, c'est le bon larron. Dans la croix et dans le sacrifice. Eh bien, la maternité pour l'épouse est liée au sacrifice, liée à la souffrance. Ces souffrances sont, dans le plan divin, un moyen pour elle de se sanctifier, d'expier ses péchés et de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la maternité est véritablement une voie de sanctification pour la femme. Et la maternité vis-à-vis des enfants que le bon Dieu veut qu'elle ait. Bon, il y a toujours cette question donc du nombre des enfants. Les enfants sont l'aboutissement normal du mariage. Voyez, les enfants dans un nombre qui n'est autre que celui que le bon Dieu a voulu. Voilà. Donc combien faut-il avoir d'enfants ? Il faut avoir les enfants que le bon Dieu veut qu'on ait. Point final. Voilà. Ni 3, ni 24, mais les enfants que le bon Dieu veut qu'on ait. Voyez. Cette maternité vécue chrétiennement comporte un certain nombre de sacrifices. Sacrifices, souffrances multiples, joie aussi. Quant aux souffrances, il y a les souffrances de la grossesse, les souffrances de l'enfantement, et puis les souffrances, toutes les souffrances qui vont faire suite à l'enfantement, et que décrit M. l'abbé André dans cette brochure. Bon. Les souffrances de la jeunesse de l'enfant, les nuits entrecoupées, les nuits de veille, les inquiétudes sur la santé de l'enfant, sur son avenir, les douleurs de ses péchés, les soucis de la vie quotidienne, de l'école, des amis, de la santé, les soucis financiers, lorsqu'ils grandissent, les soucis de l'adolescence, ensuite lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte un petit peu, ben, l'inquiétude, que vont-ils devenir, vont-ils être fidèles à la vie chrétienne, vont-ils bien s'entendre entre eux, vont-ils être ingrats envers leurs parents, vont-ils se sauver, etc. Toutes ces soucis, toutes les souffrances de la vie de la mère font partie de ces croix. Et ces croix, eh bien, il faut les voir de façon très surnaturelle, vous voyez. Je me rappelle une mère de famille nombreuse qui a beaucoup eu à souffrir, c'est vrai, de ses enfants, qui me disait quand je vois tout ce que j'ai souffert dans ma vie de mère de famille, eh bien, si je voyais une jeune mère de famille, je lui conseillerais d'avoir peu d'enfants. C'est dommage, vous voyez, c'est une réflexion qui est bien sûr compréhensible un petit peu. C'est une mère qui était arrivée qui avait beaucoup souffert, mais je pense que ça, peut-être son expression a dépassé sa pensée, parce que c'est sans doute, non, on ne peut pas conseiller à une jeune mère de famille d'avoir peu d'enfants. Oui, il faut lui conseiller d'avoir les enfants que le bon Dieu veut qu'elle ait, et ordinairement il en veut quand même pas peu, mais un nombre suffisant. Au contraire, s'il y a des croix, il faut demander au bon Dieu de les porter avec joie. D'abord, savoir voir les joies. Monsieur l'abbé André donc développe en particulier les croix. Et il faut savoir voir les joies. C'est important dans la vie de la mère de famille qu'elle ne voit pas toutes ses activités comme un fardeau, comme des choses importables, sans jamais voir toutes les joies que le bon Dieu lui donne. Voyez. Mais ça, c'est vrai de la mère de la famille, mais c'est vrai de tous les états. Dans tous les états, si vous voulez, l'homme a tendance à être borgne. C'est-à-dire qu'il voit qu'un côté de la réalité, souvent. Il se plaint de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui n'a pas. Il faut savoir, il est un petit peu comme un enfant, vous voyez, à Noël, qui voyant tous les cadeaux que le bon Dieu lui a donnés, voit les cadeaux qu'il ne lui a pas donnés. Ah, mais j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et non. On raconte toujours cette histoire de ces deux hommes qui se sont trouvés dans deux situations différentes, qui ont eu deux réactions différentes. Le premier a eu un accident, a gagné au loto. Au loto, il avait fait, je ne sais plus combien il y a de numéros, il y a 5 numéros au loto, je crois, enfin peu importe. Il a eu 4 numéros sur 15. Et donc il a eu un bon lot, je ne sais pas, quelques dizaines de milliers de francs. Mais s'il avait eu le cinquième chiffre qui était c'est bon, alors il aurait eu un lot 10 fois plus grand. Et alors il sort, alors, il a reçu son chèque, complètement accablé. Non, mais c'était pas possible, si j'avais fait un bon numéro, j'aurais eu, etc., etc., c'est triste, et alors il est triste toute la soirée. Et le deuxième homme, c'est un homme qui vient d'avoir un accident, un camion lui est passé dessus, il a perdu une jambe, un bras, etc., et il est hilar sur son lit d'hôpital. Alors tout le monde est complètement surpris, et il dit, mais c'est magnifique, j'aurais pu mourir, je suis encore vivant. Bon. Alors c'est un petit peu caricatural, mais ça montre bien, si vous voulez, que notre âme est souvent partagée entre deux sentiments différents, le sentiment de n'être jamais content de ce qu'elle a, et le sentiment d'être toujours content de ce qu'elle a. Alors évidemment, le réalisme nous oblige à une mixture de ces deux sentiments, mais faisons attention, surtout dans le monde contemporain, à être, sachons voir les joies que nous avons. Voyez. Le fait d'être épouse, c'est beau, c'est magnifique, voyez. Sur tout un tas de rapports, en particulier sous le rapport surnaturel, d'avoir reçu le sacrement de mariage, de pouvoir avoir reçu un sacrement dont saint Paul dit ce sacrement est grand, de pouvoir collaborer en tant que mère à l'éducation de ses enfants, c'est une très grande joie. Alors, évidemment, il est important de savoir savourer ces joies du bon Dieu, voyez. Le bon Dieu ne nous interdit pas de savourer ces joies qu'il nous envoie. Il faut les accueillir avec simplicité. Donc, on parle en particulier d'une mère de famille, Conchita, qui a vécu, je crois, à la fin du 19e siècle, qui savait savourer les joies que le bon Dieu lui envoyait et liées à ses rôles d'épouse et de mère. Voyez. On voit souvent des personnes qui ont un certain âge, des mères de famille, des mères de famille, puis qui disent « Ah, si je pense que j'avais la vocation religieuse, donc c'était la providence qui fait que je ne suis pas rentré au couvent, mais ça aurait été ma voie, je n'aurais pas eu tous ces soucis, c'est tellement plus beau. Vous avez choisi la meilleure part, vous les religieux, vous n'avez aucun souci, c'est la Dolce Vita, etc. 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 » Ce n'est pas vrai, c'est pas forcément une tentation du démon, mais parfois simplement un aval de la nature. La vie n'est pas si terrible quand on est mère de famille, et si belle quand on est religieuse. La vie religieuse a ses croix. Je me rappelle d'une jeune fille qui s'adressait à un religieux, à un père religieux, et lui disait « Ah là là, quelle vie magnifique vous avez vraiment la meilleure part, quelle vie extraordinaire !» Et le religieux qui avait quelques années de vie religieuse lui disait « Vous voyez pas la face cachée des choses, vous savez pas ce que vous dites, voyez ?» Et de la même façon, eh bien, on verra des personnes célibataires disant « Ah, j'aurais aimé être marié » ou alors des femmes mariées disant « Ah, j'aurais aimé avoir un autre époux », etc., etc. On n'est jamais content de ce qu'on a, voyez. Et là, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir effectivement une tentation du démon qui nous fait chercher le bonheur ailleurs que là où le bon Dieu a voulu qu'il soit. Soyons contents de ce que nous avons. C'est tout qu'on coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes dans la main du bon Dieu. Donc la sanctification de l'épouse passe ordinairement par la maternité, ce qui nécessite ordinairement qu'elle soit au foyer. qu'elle s'occupe de ses enfants. Juste un petit mot là-dessus, vous voyez bien, c'est en 50 minutes, parler de toutes ces choses-là, c'est presque pratiquement impossible. Je fais que donner quelques petits, c'est pas synthétique, c'est pas dans l'ordre, je voudrais donner quelques aspects seulement. Hein. Mais à propos de la mère au foyer, une petite indication simplement, je crois que jamais les mères ne se rendent compte, c'est pas toujours facile, parfois les mères ne se rendent pas compte, c'est pas toujours facile, c'est vrai, de la grandeur de la tâche éducative. Vous voyez, le fait d'éduquer les enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas aucun rôle que puisse avoir la mère dans la société qui puisse égaler ce rôle-là. Même sur le plan social, la mère qui éduque ses enfants a un rôle social bien plus éminent que ce qu'elle pourrait avoir dans la société. Entre construire un sous-marin et puis éduquer des enfants, il n'y a aucune comparaison possible. Et pourtant, construire un sous-marin, c'est pas mal. Vous voyez, mais il n'y a aucune comparaison possible, sans aucun doute. Parce que dans un cas, on fait de la ferraille, et dans l'autre, on fait un homme. C'est pas la même chose. Vous voyez ? Et ne disons pas, ah oui, mais finalement, de toute façon, on a peu d'influence, finalement, c'est beaucoup la liberté de l'enfant qui fait ceci, qui fait cela. Non. Il suffit d'avoir fait quelques années dans une école et dans un séminaire, c'est pareil, pour s'apercevoir très très bien de l'influence capitale de l'éducation donnée par les parents. Bon, ça fait 4 ans que je suis en séminaire, je pourrais pas parler comme celui qui est depuis 15 ans, mais c'est clair, très clairement, que les parents font beaucoup dans le jeune qui arrive au séminaire. C'est énorme. On voit très bien d'où viennent de quelle famille viennent les enfants. Alors, ils sont tous d'ailleurs bien éduqués, mais on voit qu'il y en a qui ont reçu une éducation excellente, excellente. Et c'est souvent le fait, eh bien, d'une famille et beaucoup de la mère. Beaucoup de la mère. Et c'est pas rien, vous savez, vous le comprenez facilement, d'avoir pu collaborer à faire un jeune homme qui rentre au séminaire avec beaucoup d'atouts. Beaucoup de qualités dont on puisse bien augurer pour sa formation sacerdotale. C'est énorme. Énorme. Sur tout un tas de plans. Il y a vraiment un rôle très fort. Alors évidemment, c'est pas toutes les familles qui donnent des prêtres, ça c'est le bon Dieu qui veut, mais c'est pareil vis-à-vis de la qualité de la formation qu'on donne à un jeune homme ou à une jeune fille, eh bien, va faire la qualité du futur foyer qu'elle fondera. En particulier, l'épouse doit avoir le souci de l'éducation spirituelle des enfants. L'éducation, c'est pareil, ça vaudrait des conférences et des conférences. L'épouse doit apprendre à l'enfant la piété. Et la vie surnaturelle de l'épouse est très importante, de la mère est très importante pour la vie surnaturelle des enfants. Celle du père aussi, mais. Donc, celle de la vie spirituelle de la mère. C'est capital. Par l'exemple, par la prière pour les enfants, par le mérite, par la communion des saints. Plus vous vous sanctifiez, plus vous sanctifiez ceux dont vous êtes responsable. Alors pour tout cela, eh bien, on a des secours, donc puisons dans ces secours, hein, puiser dans ces secours, les secours des sacrements, les secours de la prière, les secours de l'esprit de sacrifice. Il faut apprendre cet esprit de sacrifice soi-même pour pouvoir le transmettre aux enfants. C'est souvent ce qui manque un petit peu, de plus en plus aux jeunes, surtout aux hommes. C'est une trempe, un caractère suffisamment trempé dans l'esprit de sacrifice. Nous en manquons tous, parce que nous sommes des fils de notre siècle. Et c'est précisément dans la famille, avec la mère de famille, que va s'apprendre ce sacrifice. Il faut qu'elle apprenne à l'enfant l'esprit de sacrifice. Donc de façon prudente, raisonnable, mais qu'elle apprenne cet esprit de sacrifice. Qu'elle apprenne à l'homme à être un homme, au garçon à être un garçon, à être un homme, et à la fille à être une fille, et une bonne chrétienne, et un bon chrétien. Pour terminer, parce que c'est l'heure, juste quelques mots sur les. Je voudrais juste dire un tout petit mot à propos des personnes qui ne sont pas qui ne sont pas mariées, des jeunes filles, donc ça c'est une autre voie, celles qui ne sont pas mariées. Donc, il y a d'abord la jeune personne qui n'est pas mariée et pourrait le devenir. Qui pourrait le devenir parce qu'elle a un âge qui fait que eh bien, c'est encore une éventualité à envisager. Alors, ordinairement, il faut qu'elle se prépare, qu'elle sache connaître sa vocation, qu'elle demande au bon Dieu de connaître sa vocation, puis qu'elle se prépare à ce que le bon Dieu voudra d'elle, qu'elle puisse se préparer à être une future épouse, une future mère, si le bon Dieu le veut, à être une future religieuse, si le bon Dieu le veut, ou même à rester dans le monde en étant célibataire, si le bon Dieu le veut. Dans tous les cas, il faut se préparer. Et les vertus ne sont pas si différentes d'un état à l'autre. Elle doit attendre cela dans un esprit de simplicité, de paix. C'est pas facile. Beaucoup plus, c'est plus difficile pour la femme que pour l'homme. Donc, d'attendre cette fixation dans un état, d'attendre de voir si le bon Dieu la veut dans l'état de mariage, de l'attendre parfois longtemps, ça lui est plus cruel qu'à d'autres. Alors, qu'elle sache, c'est dans la prière qu'elle demandera ça au bon Dieu, cette paix du cœur, cette simplicité, cet abandon, cette joie, et qu'elle sache que la meilleure préparation, c'est de se former elle-même, d'acquérir la vertu, de se sanctifier, de rechercher l'équilibre naturel et surnaturel, dans la fidélité à la volonté du bon Dieu, et non pas de trop se compliquer la vie. Maintenant, le cas plus délicat, des personnes qui, passé un certain âge, eh bien, raisonnablement, peuvent penser que elles ne se marieront plus, ni n'entreront en religion. Alors, il y en a pour lesquelles c'est un choix délibéré. Alors, c'est un choix qui est en soi plus parfait, et parfois plus parfait singulièrement pour les personnes qui l'ont choisi. C'est plus parfait la virginité et le célibat que le mariage, hein. Ce n'est pas parce que c'est plus parfait que ça doit être la voie ordinaire. La voie ordinaire, c'est le mariage. Mais c'est quand même plus parfait pour tout un tas de raisons qu'on ne peut pas développer ici. Et donc, certaines vont le choisir. Bon, ben c'est très bien si c'est la volonté du bon Dieu pour elles. Maintenant, pour d'autres, ce ne sera pas un choix. Hein, ce ne sera pas un choix. On rencontrera telle ou telle personne qui souffrira beaucoup, ou plus ou moins, de ne pas être mariée. Alors, il y en a qui n'en souffrent pas du tout. Et puis il y en a qui en souffrent. Et ce n'est pas facile, c'est une véritable croix. Alors là, la grande chose qui doit animer, je pense qu'il doit être au fond du cœur, c'est l'abandon à la providence du bon Dieu. Sachons que cette foi dans la puissance, la sagesse et l'activité du bon Dieu sur nous, a son corrélatif déjà dans l'ordre naturel. C'est-à-dire que quand bien même le bon Dieu ne nous aurait pas élevé à l'ordre surnaturel, eh bien, de toute façon, c'est lui qui dirige tout. Donc, même les païens peuvent avoir cette connaissance, si vous voulez, de la direction totale de l'univers par Dieu. Et donc, même pour eux, le choix de leur état, etc., est soumis à Dieu. Et c'est encore plus vrai dans l'ordre surnaturel. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est le bon Dieu qui dirige tout. Vraiment tout, jusque dans les moindres détails. Alors nous avons l'impression de construire les choses parce que nous sommes libres, et effectivement nous sommes libres, mais lorsque nous faisons le bien, lorsque nous prenons des décisions qui ne sont pas des péchés, lorsque nous faisons le bien, ce n'est pas parce que nous faisons le bien que Dieu nous donne le soutien pour le faire, c'est parce que de toute éternité il a décidé ce que nous ferions que nous le faisons librement. En d'autres termes, Dieu anticipe toujours notre agir. Et ça montre que Dieu a anticipé toute notre vie, jusque dans les moindres détails. Et donc, vous voyez, c'est très important pour les personnes de bien se dire, si par exemple je n'ai pas été marié, eh bien, de ne pas voir les choses purement horizontalement. Vous voyez, disant, mais oui, mais c'est parce que, eh bien, je n'ai pas eu un physique qui faisait que, bon, physiquement, j'y suis pas. Il n'y a pas eu de jeune homme qui a désiré se marier avec moi, ou alors parce que j'avais un sale caractère et donc j'ai pas réussi à me corriger, ou bien parce que j'étais dans un endroit où j'ai pas pu rencontrer. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent intervenir. Et ça peut être des vraies raisons. Mais toutes ces raisons sont soumises au bon vouloir divin. Même le péché des hommes est permis par Dieu pour le plus grand bien. Et donc, il faut se dire que si je suis dans tel état, même si je souffre de cet état, c'est cet état que le bon Dieu a voulu pour moi. Et ça, c'est une vérité totale qui vient pas seulement de la foi, mais qui vient presque de l'expérience de chacun. Nous sommes vraiment dans la main du bon Dieu, beaucoup plus que ce que nous imaginons. Lorsque viendra l'éternité, le voile va tomber, nous allons voir les choses comme le bon Dieu les voit. Et alors tout va s'ouvrir. Mais je comprends maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai ? Je me suis cassé la tête pendant tant d'années à me révolter contre ceci, à me rebeller, à souffrir de cela. Et c'est bon Dieu qui avait prévu pour moi. Alors il avait mis tout un tas de choses en place. Il avait permis tout un tas de défaillances. Et pour moi, j'ai tout attribué à ces défaillances, à ces circonstances. Et j'ai pensé que j'étais dans un mauvais sort. Mais en fait, non, c'est le bon Dieu qui avait voulu pour ça pour moi. Alors ça, c'est très très important. Oui. Parce que c'est totalement vrai. On est dans la vérité. On est dans la vérité. Et ça donne une grande confiance, une grande paix, qui sont très nécessaires. C'est pas de l'opium, comme dirait Marx, voyez. C'est pas un placebo. C'est une vérité. C'est se placer dans la vérité. C'est faire autrement, c'est se placer dans l'erreur que de faire autrement. Donc, confiance dans le bon Dieu. Demandons, que la dévotion à la très sainte Vierge Marie, qui est le modèle de l'épouse et de la mère, que la dévotion à la très sainte Vierge Marie, soit pour les épouses, pour les mères, pour les femmes, pour toutes, eh bien le repère, l'étoile, le drapeau, l'encre, le salut, la force, celle qui montre la lumière, qui apaise tout, qui montre les devoirs et qui donne la force de les faire dans la joie.